Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacret.
Amis auditeurs des dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invité aujourd'hui est un acteur majeur de la réflexion et de l'accompagnement de la fin de vie et du deuil en France. Un acteur éclectique par la diversité de ses lieux d'investissement, mais constant dans sa quête du sens de l'existence humaine. Il est cofondateur du cercle Vulnérabilité et Société. Et il est notamment l'auteur, parmi d'autres livres, de « Vivant jusqu'à la mort » qui est paru chez Albin Michel. Guy Châtel, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans le cadre du cercle Vulnérabilité et Société, vous avez récemment traité de l'accompagnement des collaborateurs en deuil, ce qui n'est pas en soi une surprise. En revanche, ce qui m'a plus surpris, c'est le lien que vous faites entre l'accompagnement de ses collègues en deuil et de la performance globale de l'entreprise.
Oui, le sujet peut quand même surprendre. Déjà dire peut-être un mot sur le cercle Vulnérabilité et Société, qui est un groupe de réflexion, un think tank, comme on dit parfois, qui accueille 57 organisations aujourd'hui, et toutes ces organisations sont réunies pour démontrer en quoi la vulnérabilité est une ressource, en quoi elle est une expérience de vie, et pas seulement une fragilité qui appellerait des réponses de correction ou d'ajustement, mais c'est une expérience de vie universelle qui peut constituer une ressource. Et c'est dans cette lecture-là qu'on a situé notre réflexion sur le deuil.
On est dans un paradoxe, là, clairement, puisque, a priori, vulnérabilité, on voit le loser, et puis nous, là, on parle de performance.
Donc, alors, en plus, l'actualité récente voudrait nous faire croire qu'il y aurait un certain retour de la force brute, mais en réalité, nous, on n'est pas simplement convaincus que la vulnérabilité est une ressource, ça peut être effectivement un oxymore en première analyse, mais on démontre que ce sont des expériences de vie dans lesquelles on apprend quelque chose. Et ce qu'on apprend a de la valeur pour soi et ça peut avoir aussi de la valeur pour les autres. Et donc de fil en aiguille, on en vient à démontrer quel type de valeur ça peut produire, non seulement dans la société, mais aussi pour les sociétés, pour les entreprises. Donc on avait déjà mené une première étude sur les compétences que les aidants, les proches aidants, peuvent acquérir dans l'exercice de leur accompagnement et qui pourraient avoir de la valeur dans le cadre du travail, le sujet des aidants salariés étant un sujet désormais majeur dans les politiques publiques. On a ensuite démontré que le fait d'avoir connu ou d'être en situation de handicap génère aussi des gains de performance pour l'entreprise quand on accueille un travailleur handicapé, donc on est très loin de la vision misérabiliste. Et le troisième temps, c'est qu'on a essayé de montrer en quoi le fait d'avoir été confronté au deuil a quelque chose d'archétypal dans l'expérience de la perte, qui est quelque chose qui est assez peu valorisé en entreprise, mais toute entreprise abandonne des projets, abandonne des filiales, renonce ici ou là. Donc il y a quelque chose de fondamental pour rappeler que la perte précède le gain. Et donc on a voulu montrer que d'une part, c'était un impensé dans le cadre de l'entreprise. On estime qu'il y a environ 3 millions, c'est-à-dire quasiment 10% des actifs qui sont ou qui ont connu une situation de deuil. Et l'entreprise ne gère le deuil que quand ça survient.
Alors à quoi cette sensibilisation aboutit concrètement? Parce que l'entreprise, c'est le lieu du concret, de la production. Qu'est-ce que cette prise en compte de ce que vous avez appelé un impensé change dans les comportements au quotidien?
Déjà, les personnes qui ont été confrontées au deuil ont appris non seulement l'expérience de la perte, mais elles ont appris à rebondir, à tisser de nouveaux types de relations, donc à organiser leur mode de vie. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, il faut déjà bien prendre conscience que l'entreprise a intérêt à soutenir les personnes en deuil pour éviter qu'elles ne décrochent, qu'elles ne se fragilisent. Mais dans un deuxième temps, il y a comme, allez, on va le dire comme ça, une forme de retour sur investissement par le fait que les gens développent des talents, notamment la capacité à gérer des émotions, ce qu'on appelle assez couramment des soft skills ou des compétences issues de l'expérience, dont on a aussi montré que le Forum économique de Davos, qui n'est pas une entreprise philanthropique, avait mis en évidence que c'est les talents les plus recherchés à l'horizon 2030, à partir de 2025. Donc tout notre travail consiste à montrer que ces talents issus des situations de vulnérabilité bénéficient au plus grand nombre et qu'il faut sortir d'une approche misérabiliste de la vulnérabilité pour en faire une approche intégrative dans laquelle tout le monde peut tirer du coup non seulement des talents mais aussi des modes d'organisation différents, notamment au travail.
Et est-ce que c'est vrai pour la société tout entière, puisque vous êtes un homme qui s'intéresse depuis longtemps à la question du deuil et qui sans doute milite pour qu'on en tienne davantage compte, qu'on accompagne mieux les personnes en deuil. Est-ce qu'il y a là une façon de présenter le sujet de l'accompagnement du deuil, de sa prise en compte, qui d'une certaine manière positive en quelque sorte par l'apport, l'enrichissement collectif?
Oui, et il ne s'agit pas de positiver simplement philosophiquement. Il s'agit de positiver en faisant la démonstration que si nous mettons à l'écart les gens qui font ce type d'expérience, nous nous privons d'un certain nombre de ressources. Des ressources en termes d'engagement, des ressources en termes de cohésion, des ressources en termes de qualité même de ce qui est travaillé. Donc on a pu démontrer, contrairement à toutes les idées reçues, que les gens qui ont connu le deuil travaillent de manière plus fiable, plus soutenue, d'accord, que la vulnérabilité est là comme étant un ressort qui permet de s'impliquer, de s'engager davantage. Et aujourd'hui, ce à quoi les entreprises font face, c'est souvent un défaut d'engagement, avec du turnover et j'en passe. Et donc, par rapport à votre question, oui, toute la société aurait enfin un intérêt bien compris à intégrer la question du deuil et pas simplement à la remiser.
Dans cet enfin, j'entends ce qui effectivement me semble palpable, c'est que dans notre beau pays de France, le deuil est une réalité qui a du mal à se sociabiliser, à se partager. Est-ce que j'ai tort? Et que dans le monde anglo-saxon, par exemple, ça se passe de façon beaucoup plus spontanée.
Oui, alors, il y a déjà une première chose qui est méconnue, c'est qu'on estime, les enquêtes sociologiques, il y en a très peu. Moi, j'ai eu la chance d'être à l'origine de la première d'entre elles. Il y a très peu d'enquêtes sociologiques, pas assez. Mais elles estiment qu'environ 40% des Français se considèrent aujourd'hui en deuil.
Énorme.
C'est un chiffre considérable. On a toujours l'impression que ça va toucher quelques dizaines de milliers de personnes chaque année. Il faut avoir à l'esprit que pour chaque décès, il y a environ 650 000 décès annuels. Les études scientifiques montrent qu'on aurait entre 4 et 7 personnes qui souffriraient du deuil. Donc vous avez un coefficient multiplicateur qui est considérable. Ce qui veut dire que chaque année, vous avez entre 2,5 millions et 4 millions de personnes qui font l'expérience du deuil. On peut dire qu'un tiers ou la moitié d'entre eux peuvent en souffrir particulièrement. Et comme en plus on sait que le deuil peut durer 3 ans, 5 ans, c'est la moyenne, mais parfois 15 ans, vous avez donc on va le dire trivialement, mais un stock de personnes en deuil qui est tout à fait considérable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de société sans personnes en deuil. Et donc, arrêtons d'en faire une partie congrue de la société pour revoir, au contraire, à quel point c'est le poumon. C'est le poumon de la société.
Alors vous, non seulement vous en parlez, non seulement vous agissez dans différentes sphères, dont celle dont on a parlé, le cercle vulnérabilité-société, mais aussi vous innovez en proposant d'accueillir des personnes en deuil dans une propriété familiale, d'après ce que je comprends. Vous avez appelé ça le château du répit. Alors dites-nous un peu quel est le projet.
Alors en fait, c'est une histoire. Moi, j'aime bien raconter des histoires. Donc il se trouve que par le biais de mon épouse, nous reprenons une propriété familiale qui est détenue depuis 10 générations, qui est un monument historique placé en plein cœur de la France. Et donc on s'est dit que ce lieu-là pouvait être reçu comme étant un fardeau, parce qu'il y a beaucoup de choses à prévoir et à entretenir.
Beaucoup de toits.
Beaucoup de toitures, des bâtiments, voilà. Et on s'est dit, mais ça peut aussi devenir une chance. Et ça ne peut pas être une chance rien que pour nous, ça doit être une chance qui doit être partagée, parce que les gens étant de plus en plus urbanisés, de plus en plus isolés, y compris dans leurs épreuves de vie, la première idée qui est venue, c'est de dire, on va en faire un lieu de ressourcement pour des personnes qui ont besoin de répit. Alors le sujet du répit s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment autour des proches aidants, mais assez peu autour d'un certain nombre d'autres publics. Et donc j'ai souhaité qu'on puisse accueillir des proches aidants, des personnes en deuil et des professionnels de santé dont chacun peut mesurer qu'ils sont en limite d'épuisement dans un certain nombre de cas, pour leur offrir un cadre ressourçant, en pleine nature. J'insiste sur la beauté. Je trouve que la beauté est le meilleur des soins aujourd'hui à pouvoir prodiguer à quelqu'un. En ralentissant quelque chose dans leur vie, je parle pour les aidants ou pour les professionnels de santé, mais aussi en se réconfortant mutuellement, je parle en particulier pour les endeuillés, et tout ça de manière accompagnée.
C'est-à-dire, alors, donc imaginons, je suis une personne isolée, un conjoint survivant, moi, et j'entends parler du château du répit, donc je vais m'y inscrire et je vais me retrouver en présence de gens tous azimuts, ils ne sont pas sélectionnés parce qu'ils ont, comme moi, perdu un conjoint. Ça peut être toutes sortes de deuils différents. Et qu'est-ce qu'on va vivre ensemble ?
Alors, déjà, moi j'ai besoin du partenariat, ce à quoi je travaille, d'un certain nombre d'organismes pour prendre en charge, ne serait-ce que financièrement, une partie de cet accueil. Donc ça veut dire qu'il y a des organismes de prévoyance qui peuvent devenir prescripteurs. En disant, ben, dans votre contrat d'assurance, voilà, si vous êtes dans cette situation, vous pouvez bénéficier d'un séjour répit au château du répit. Le deuxième point, c'est de pouvoir se retrouver à échanger. On sait, hein, toutes les enquêtes montrent que ce qu'on appelle l'aidance est souveraine en matière de soins, beaucoup plus que les antidépresseurs ou les anxiolytiques, qui sont parfois justifiés. Le simple fait de pouvoir être entendu, de pouvoir être légitimé dans tout ce qu'on traverse. Beaucoup de personnes en deuil nous disent mais je peux partager ça avec personne, ou bien j'ai le sentiment d'être fou ou folle si je me mets à raconter ce que je ressens, et ainsi de suite. Et donc ça contribue à l'isolement. Et moi, mon ambition, c'est de désisoler. C'est de permettre aux gens de me toucher du doigt que ce qu'ils vivent est normal, que c'est vécu par des milliers de gens en même temps qu'eux. Et que le moyen, le meilleur, c'est de pouvoir se poser, parler, être entendu sans jugement, bénéficier des ressources des uns et des autres, des conseils, mais on sait déjà même que l'écoute en tant que telle est souveraine pour soutenir les gens, et puis de comprendre. Parce qu'une personne en deuil, elle vit des choses de manière très émotionnelle, mais elle a aussi besoin de comprendre ce qui lui arrive. Et donc là, c'est là où moi j'apporte quelque chose de particulier, c'est la connaissance que j'ai du sujet du deuil depuis plus de 20 ans, de sorte qu'au bout de quelques jours, ils ressortent apaisés, régénérés, avec des outils, avec des contacts, et qu'on ne les laisse pas dans la nature tout seuls. Et donc mon ambition, c'est aussi de pouvoir petit à petit tresser des liens et inscrire les gens dans une projection de leur vie où ils ne seront pas tout seuls.
Durée moyenne du séjour pour des personnes en deuil, pour qu'ils apportent son fruit ?
J'ai fixé ça à 5 jours pour l'instant.
Ouais, c'est ambitieux.
Ce qui est court et long. Voilà. Mais à moins de 5 jours, on ne se pose pas vraiment. Et ça n'exclut pas que derrière, au contraire, les gens puissent continuer à garder des liens.
Château du Répit, donc là, il y a un site internet. On va pouvoir consulter ce qui s'y passe. Tanguy Châtel, ben merci, bravo de prendre une initiative généreuse que nous encourageons, bien sûr, vivement. Au revoir.
Merci beaucoup.
Nous continuons nos programmes avec Halte Spirituelle, avec Madeleine Vatel.
Une femme de lettres, une romancière distinguée par un prix Nobel de littérature peut aussi être une femme engagée dans une fraternité laïque, dominicaine. Et c'est ce qui arriva justement à la Norvégienne Sigrid Undset. Et je vous propose d'écouter son chemin de foi dans quelques minutes. A tout de suite.